200e.
On va s'entraîner et ça on sera en pleine forme pour la 200e.
Allez, Mustang.
On me dit que la terre est à bout et se marre. Partout, tout est à bout, les motos, les homards. On dit fini le whisky, la vodka, les burgers. Du coup, eh oui, je suis de mauvaise humeur. On parle du bagnole qui pollue l'atmosphère, mais pas de l'espagnol qui a mordu mon boxer. On me parle des phoques au pôle nord qui meurt, mais rien sur la salope qui m'a brisé le cœur.
Ketchup, ketchup.
HK. Hein, votre profession.
Saltimbanque.
Non, votre métier, votre travail, quoi ça.
Poète ou musicien.
Mais, vous me faites perdre mon temps, monsieur.
Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une belle ordure. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltimbanque.
Nos parents se sont tués à la tâche, 13 heures par jour, parfois 7 sur 7 sans relâche. Les miens se lever avant le soleil à 3 heures du mat.
Le travail c'est la santé,
va dire ça aux petits chinois qu'on exploite. Retour au 19e siècle, on voudrait nous faire travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour quelques points de croissance en plus. En plus, faudrait que je me lève tôt, que je travaille tard plus longtemps, histoire peut-être que je crève un peu plus tôt. Histoire d'équilibrer nos retraites. Et pendant ce temps, notre président se fait doubler son salaire. L'air de rien, va savoir au fond c'est peut-être un régime spécial pour payer sa pension alimentaire. Pour me faire couper toutes ces conneries, faudra se lever de bonheur. Je suis tout sauf un feignant, moi aussi je donne de ma sueur. Je m'arrache H24 sans relâche pour un autre demain. Je suis motivé, motivé, comme diraient les frangins.
Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une benne à ordures. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltimbanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltimbanque.
Je pourrais chanter la 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 façon Benin Barou de l'air. On m'assure que ma musique passerait en boucle sur France entière. Chanter des conneries du genre on se commande une pizza.
J'ai plutôt choisi d'ouvrir ma gueule, remuer la merde, me remémorant la grande époque à Yam Assassin NTM. Le monde de demain devait nous appartenir. Mes petits frères par Babylone s'est laissé endormir.
Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour se soulever. Pas puni le point levé, relevé nos idéaux ravalés. Trop de foutaises avalées, nos rêves envolés, révolution dévoyée.
On a pris notre micro, notre baluchon, kilomètres avalés. Nouvelle époque, nouvelle grosse gueule, la relève s'est révélée. À l'ancienne, on a parcouru les routes de France, histoire de voir ce qui se passait, remuer les consciences. Mais la France, c'était trop petit pour nos visées révolutionnaires. Désormais, appelle-nous, certains manquent sans frontières.
Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur.
RFI, bonjour, 16h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris et à Vienne.
Nicolas Brousse.
H-3 avant la finale de l'Eurovision, le concours de chant très populaire qui en est à sa 70e édition. Mais cette année, 5 pays boycottent pour protester contre la participation d'Israël. C'est Vienne qui reçoit ce soir la capitale autrichienne, où certains ont fait savoir dès cet après-midi leur opposition. Taïwan est une nation indépendante, rappel de la diplomatie taïwanaise adressée à Donald Trump suite à sa visite en Chine, qui considère Taipei comme une de ses provinces. Le président américain demande à Taïwan de se retenir de toute proclamation d'indépendance, n'ayant pas envie, dit-il, que ses soldats avalent 15 000 km pour faire la guerre. Dans ce journal également, une enquête française pour faire la lumière sur la disparition du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, il y a 8 ans, au consulat saoudien d'Istanbul. Et puis la liberté académique de plus en plus menacée à travers le monde. Avec plus de 160 millions de téléspectateurs, c'est l'un des rendez-vous télévisuels les plus suivis de l'année. L'Eurovision, ce soir 70e édition déjà pour ce concours de chant qui rassemble, comme son nom l'indique, les pays européens, mais aussi de manière plus surprenante, des pays comme l'Australie ou encore Israël. L'État hébreu dont la participation cette fois suscite la polémique et même le boycott de 5 pays, dont un poids lourd, l'Espagne, mais aussi l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie. La télévision public slovène a même programmé ce soir un documentaire sur les Palestiniens à la place de l'Eurovision. Le message est donc clair. Pourquoi avoir exclu la Russie suite au déclenchement des hostilités en Ukraine et pas Israël, dont la réplique aux attaques terroristes du 7 octobre lui vaut entre autres des accusations de crimes de guerre. Même en Autriche, pays hôte, ce soir, l'opposition se fait entendre. Des militants pro-palestiniens ont organisé un concert alternatif dans le centre de la capitale, Vienne. Reportage d'Isorias.
Bien que le concours se déroule dans son pays et que l'ambiance soit festive à Vienne, Gloria, l'une des manifestantes, a décidé de ne pas regarder ce soir. Pour cette jeune femme de 32 ans, la participation d'Israël au concours n'est pas anodine.
On ne peut pas dire que l'Eurovision soit un simple divertissement alors qu'il est avéré que c'est un événement profondément politique. La Russie, par exemple, a été immédiatement exclue de la compétition alors qu'on ferme les yeux sur Israël. C'est un événement événement où on se produit sous le drapeau national au nom de son pays. On ne peut donc tout simplement pas dissocier cela de ce que fait le pays.
À quelques mètres derrière, dans le cortège, Michelangelo discute avec une amie espagnole comme lui. Il approuve totalement la décision de son pays, l'Espagne, de boycotter le concours cette année et le boycottera lui-même ce samedi soir. Il aimerait qu'il soit nombreux à le faire.
L'Espagne a été boycottée par l'Autriche en raison du régime fasciste d'alors et l'Autriche avait raison. Elle nous a aidés à grandir en tant que pays, même si c'était un petit geste. Et aujourd'hui, nous devrions faire le même avec Israël. Car pour ce pays, plus encore que pour la Russie ou l'Espagne à l'époque, son image à l'étranger est un élément fondamental.
Ceux qui, au contraire, voudront regarder ensemble cette finale pourront le faire devant l'hôtel de ville où un espace avec écran géant peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Isorias, Vienne, RFI.
L'émission commence à 21h locale. Le virus Ebola est en Ituri dans l'est de la RDC, 17e épidémie d'Ebola qui touche la République démocratique du Congo. Et il n'existe pas encore de vaccin pour ce variant Bundi Bugyo. L'agence sanitaire de l'UA met en garde contre un risque élevé de propagation. Déjà 246 cas suspects répertoriés en RDC, 80 décès enregistrés. L'Ouganda voisin est également concerné. Nous entendrons le ministre RD congolais de la Santé dans le prochain journal. Ce sont d'abord les États-Unis qui l'ont annoncé, puis le Nigeria l'a confirmé, la mort d'Abu Bilal al-Minouki, que Donald Trump a présenté comme le numéro 2 du groupe État islamique dans le monde. Résultat d'une opération menée conjointement par les deux pays, opération Air Sol de précision, minutieusement planifiée, extrêmement complexe, qui s'est déroulée au cœur de la nuit dernière, précise un communiqué de l'armée nigériane. On y revient dans la première édition d'Afrique Soir, tout à l'heure à 18h30, temps universel. Taïwan est une nation démocratique, souveraine et indépendante qui n'est pas subordonnée à la République populaire de Chine. Réaffirmation ce week-end du ministère taïwanais des Affaires étrangères, après que Donald Trump a mis en garde Taipei contre toute proclamation d'indépendance. Avec cette déclaration, le président américain, englué dans la guerre contre l'Iran, fait donc un geste envers son homologue chinois à l'issue d'un sommet de deux jours à Pékin avec Xi Jinping. François-Damien Bourgeoisie, c'est un changement de paradigme. Jusque-là, Washington s'en tenait à un strict statu quo.
Un soutien militaire sans reconnaissance officielle de l'indépendance de Taïwan. Depuis 1979 et le Taiwan Relations Act, Washington a toujours maintenu un savant équilibre dans ses relations avec Taipei. Mais en mettant en garde l'île contre toute déclaration d'indépendance, Donald Trump a fait un pas vers Pékin, explique le chercheur Marc Julienne. Il est interrogé par Elliot Vessier.
Il se rapproche de ce que souhaiterait la Chine et de ce que probablement Xi Jinping a essayé de convaincre Donald Trump, c'est de passer du non-soutien à l'indépendance à l'opposition à l'indépendance.
Donald Trump qui a aussi déclaré n'avoir pas encore pris de décision sur la poursuite des ventes d'armes à Taïwan. Or, toute annulation ou diminution des livraisons constituerait un signal inquiétant, explique Marc Julienne.
C'est potentiellement l'abandon ou en tout cas la suspension du soutien militaire américain qui est encore une fois prévu par la loi américaine. Donc c'est une forte préoccupation pour les autorités taïwanaises, mais de manière générale, je pense, pour la population, puisque les États-Unis sont le seul partenaire de défense de Taïwan.
Le chercheur estime qu'il s'agirait aussi d'un signal extrêmement négatif envoyé aux alliés des États-Unis dans la région, notamment à la Corée du Sud et au Japon.
Dossier suivi par François-Damien Bourgeoisie. RFI, il est 18h06 ici à Paris, où 8 ans après l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, un juge français du pôle crime contre l'humanité va enquêter. La plainte a été déposée en France contre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Aram Beng, comment cela est-il rendu possible?
La plainte est déposée depuis 2022 par des associations parmi lesquelles Reporters sans frontières pour torture et disparition forcée lors d'un passage de Mohamed Ben Salman à Paris. L'annonce de l'ouverture d'une enquête en France sur la disparition de Jamal Khashoggi est donc saluée par l'association française. Antoine Bernard, directeur du plaidoyer de RSF.
C'est une très bonne nouvelle, une enquête judiciaire indépendante. À date, c'est la seule au monde, c'est la seule enquête judiciaire crédible au monde sur le meurtre et l'assassinat de Jamal Khashoggi. Eh bien, cette instruction, cette enquête va démarrer et RSF va évidemment y collaborer du mieux possible.
Et qu'est-ce que vous en attendez?
Nous en attendons bien sûr la vérité, surtout les responsabilités individuelles, quelles qu'elles soient. Et enfin, la justice. que des sanctions soient recherchées dans le cadre d'une procédure crédible, équitable, comme la France peut en offrir, et qui aboutisse véritablement à la sanction de ce crime abominable.
Avant cette décision de la Cour d'appel, le parquet national antiterroriste s'est toujours opposé à l'ouverture d'une enquête en France, au motif que les associations n'étaient pas recevables.
Les précisions d'Aram Beng. La liberté académique, aussi appelée liberté universitaire, est de plus en plus mise à mal à travers le monde, et ça n'est pas de bon augure pour la diffusion et la transmission des savoirs. Dans 50 pays, elle a même nettement reculé ces 10 dernières années, et c'est dans les États-Unis de Donald Trump que la chute est la plus brutale. Résultat du dernier indice de la liberté académique publié chaque année par l'université de Nuremberg en Allemagne et celle de Göteborg en Suède. Une enquête dont vous avez pris part, Stéphanie Schuller.
La liberté académique garantit la pluralité des savoirs, l'excellence intellectuelle et plus largement la vitalité démocratique d'un pays. Les scientifiques peuvent-ils choisir librement leur terrain de recherche, enseigner sans subir de pression? Peuvent-ils s'exprimer sans contrainte sur des sujets controversés, échanger entre eux, y compris à l'international, sans rencontrer d'obstacles non académiques? 2357 scientifiques de 179 pays ont répondu à ces questions. Le résultat est sans appel. En 10 ans, la liberté académique n'a pas seulement reculé dans des pays tels que l'Inde, la Hongrie ou la Turquie, mais aussi dans de nombreuses démocraties libérales, comme en Suisse ou aux Pays-Bas. La chute la plus brutale, de 50% en un an et demi seulement, concerne l'autonomie institutionnelle des universités américaines. Le retour au pouvoir de Donald Trump s'est traduit par des ingérences politiques massives. Les fonds de recherche ont été réduits, leur versement conditionné à l'application d'une ligne idéologique. Seuls 9 pays ont vu leur liberté académique s'améliorer, comme la Gambie, et parmi les pays les mieux notés, on retrouve le Vanuatu et la Barbade. La France, elle, apparaît dans le groupe intermédiaire.
Une enquête à laquelle a pris part Stéphanie Schuller. Toutes mes excuses aux professeurs de français qui écoutent Radio France Internationale. Il est quasiment 18h10 ici à Paris. Je vous retrouve dans 50 minutes pour un prochain journal. En attendant, c'est Mondial Sport sur la Radio du Monde. Merci à tous de votre fidélité.
Tout à l'heure dans le débat africain avec
vous. Tous les week-ends dans mon quartier, on se réunit entre copains. Abdou Karim, Brel et Xavier, et puis Marie qu'on aime bien. On n'est pas une bande de loupards, car on n'a pas de mobilette. Faut pas nous prendre pour des trouillards, on est le gang des trottinettes. Quand le City Stade est occupé par le gang des tiktokeuses, des collégiennes qui font danser, tout ça pour faire les frimeuses. C'est tant qu'elles aient terminé de faire leur choré toute belle. On s'en entraîne dans tout le quartier, on fait les courses de trottinettes.
Avec les copains, c'est la fête. On est le gang des trottinettes. On s'amuse, c'est super chouette. On est le gang des trottinettes.
Quand le City Stade est libéré, Karim sort enfin son ballon. Et on peut maintenant aller jouer. Mais il faut faire très attention à l'animateur du quartier qui a toujours l'intention de vouloir nous faire rejouer à ces jeux un peu bidon.
On lui dit arrête d'insister. Non, 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 non. Nous, ce qu'on veut, c'est de continuer de taper dans le ballon rond. Tes jeux, tu peux te les garder. Ils sont vraiment pas très chouettes. On fait ce qu'on veut, c'est notre quartier. On est le gang des trottinettes.
Avec les copains, c'est la fête.
Quand il pleut, on peut pas bouger, on reste tous à la maison. Mais on peut quand même se retrouver, on joue à des jeux en réseau. Mario FIFA, on aime bien jouer, c'est nous les rois de la manette. Même coincé devant la télé, on est le camp des trottinettes.
Marie, elle n'aime pas trop jouer, mais elle se connecte quand même. Pour continuer à discuter de tout, de rien, de ce qu'elle est.
Mais squat le jeu à trop chatter, avec Xavier c'est des pipettes.
Mes potes et moi sur internet, on est le camp des trottinettes.
Avec les copains, c'est la fête. On est le camp des trottinettes. On s'amuse.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.